константный, за тобою бігтиму, просто за тобою.
Et non, vous n'êtes pas sur Radio Ukraine, mais vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel. Et nous écoutions Zapaska Nespodivano, parce qu'une de nos grandes reporters est partie en Ukraine pour la manifestation du 8 mars. Alors, qu'est-ce que tu nous as rapporté, Céline ?
Eh ben, merci, Juliette. J'étais à Kiev pour le 8 mars. J'étais en fait avec la Barbe, invitée par un groupe féministe radical de Kiev qui s'appelle Offensive Féministe. Feministichna Offensiva.
Oui, c'est toujours mieux en ukrainien.
Voilà, c'est beaucoup plus classe. Et qui est un groupe très actif et très dynamique, qui faisait deux choses en fait pour le 8 mars. Donc elles organisaient une semaine de conférences dans le centre de culture visuelle de l'université Mogila de Kiev. Donc je le précise parce qu'il y a en ce moment un conflit en fait entre le centre de culture visuelle et l'université qui l'héberge. Parce que le centre soutient en fait les activités de différents groupes de gauche qui sont jugés justement trop à gauche par la direction de l'université. Et le centre avait notamment organisé une exposition qui s'appelle Le corps ukrainien, où il y avait des photos et des dessins de nus. Et en fait, ça a été jugé très choquant par le président de l'université qui a censuré l'exposition. Donc l'exposition a été fermée au bout de 3 jours. Et là, en fait, le centre maintenant est fermé. Donc, il a menacé d'abord de fermeture le centre. En fait, les activités autour du 8 mars se sont déroulées comme prévu, mais maintenant, le centre est fermé. Voilà, et donc ça, c'est la première chose qu'elle faisait. C'était une semaine de conférences. Et la deuxième chose, c'était organiser la manifestation du 8 mars. Donc, c'est un groupe, en fait, qui s'est monté, qui est très récent, Offensive Féministe. C'est un groupe qui s'est monté l'an dernier, en 2011, à l'occasion notamment de la manifestation du 8 mars 2011, qui était en fait un siècle après la première manifestation féministe pour le 8 mars.
Sachant que dans les pays de l'Est, c'était un jour férié et que les gens, qu'il y avait quand même énormément de manifestations traditionnelles encadrées par le Parti communiste
voilà.
À l'époque.
Exactement. Et alors c'est toujours un jour férié en fait. C'est toujours un jour férié avec les fleuristes à la sortie du métro parce que c'est l'occasion de célébrer la femme, la mère, etc., etc. Et donc justement, c'était exactement ça le thème de leur manifestation l'an dernier en 2011. C'était, c'est une journée politique, quoi. C'est un sens politique. Et cette année, le thème qu'elles avaient choisi, c'était la séparation de l'État et de l'Église orthodoxe, puisque donc, officiellement, il y a ces deux institutions qui sont indépendantes l'une de l'autre. Mais évidemment, en Ukraine comme en Russie, il y a une forte imbrication en fait, des valeurs religieuses dans le politique. Donc, je vous propose d'écouter un premier son qui est le son de la manifestation du 8 mars.
Oh la vache!
Tu peux décrire la situation?
Et bien là, on a des opposants qui se rapprochent petit à petit. Donc, c'est un peu l'hystérie. Il y a des sortes de CRS qui sont en train d'essayer de nous protéger. Donc, qui sont en train de se placer pour nous protéger de la meilleure façon. Et on est beaucoup moins nombreux qu'eux, donc il va falloir essayer de gérer la situation en restant groupés, je crois. Ça crie, ça crie.
La situation est très bad. All these people are religious fanatic and they are singing stop gender in Ukraine. Stop gender in Ukraine.
Dans ce qu'ils disent, ils disent arrêter le genre en Ukraine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste qu'ils ne savent pas ce que le mot genre veut dire. Elle parle de l'interdiction de l'exposition Le corps ukrainien. Elle dit que c'est vraiment une oppression. Une oppression exercée par l'État contre les études de genre et l'art en Ukraine.
Gender studies and art in Ukraine.
Так вільні думці, 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 так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так
вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці,
так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні
думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так вільні думці, так et imprégner en quelque sorte le gouvernement avec ce qu'elle appelle des lois morales. Aujourd'hui, en Russie et en Ukraine, il y a une loi qui est dite contre la propagande à l'homosexualité. Cette loi met sur le même plan l'homosexualité et la pédophilie. C'est très important. On peut arrêter quelqu'un simplement en raison de ses orientations sexuelles, parce que c'est considéré comme de la pédophilie. Je ne peux pas te dire exactement comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas encore eu de cas. Elle a été promulguée il y a un mois en Russie. Donc voilà, c'est un exemple du fonctionnement de l'oppression exercée par
les.
Alors on sent que les manifs dans les rues de Kiev, c'est pas tout à fait la même chose que Place Stalingrad ici. Hein. On est à un niveau de violence et d'activisme différent.
Bah oui, c'est vrai que les contre-manifestants ukrainiens n'étaient pas particulièrement sympathiques, ils étaient même assez virulents. Donc ça, c'était effectivement un aspect de la manifestation du 8 mars à Kiev. Un autre aspect, c'était en fait notre non-rencontre avec les fémènes.
Ah oui, parce que quand même... Attention, hein, l'Ukraine, pour moi, et quand on parle de féminisme, c'est les fémènes.
Bah
vous
voilà.
Savez, quoi, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, mais on les a beaucoup vus dans les médias et dans la presse. C'est les féministes qui ont été à Davos et qui se sont dénudées, en tout cas qui sont montrées seins nus. Et elles ont fait ça à Davos, mais elles ont fait ça aussi dans en Russie au moment des élections, au moment de la dernière élection de Poutine. Mais
ouais, et effectivement, c'est leur mode d'action. Hein. C'est manifester seins nus. Elles étaient venues à Paris au moment de l'affaire DSK. Donc, elles étaient place des Vosges devant chez DSK. Et donc, elles étaient déguisées en femmes de chambre et elles criaient « Fuck me in Porsche Cayenne ».
Ouais, donc, c'est un slogan comme un autre. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Elles étaient aussi en décembre à Minsk. Puisque en décembre, en fait, c'était un an après la entre guillemets réélection d'Alexander Loukachenko.
Ouais.
Donc c'était un an après cette réélection. Il y avait trois activistes des fémènes qui étaient allés, deux activistes avec des corps en fait très normés, puisque c'est un peu quand même leur marque de fabrique. Elles présentent souvent des activistes avec des corps très normés en termes de féminité. Et il y avait une autre activiste qui avait un corps beaucoup plus corpulent, qui était rasé. Et ça dénotait en fait par rapport aux actions qu'elles font d'habitude. Et ça, je le mentionne parce qu'en fait, dans l'interview qu'on va écouter, les deux activistes d'offensive féministe reviennent justement sur cet épisode de Minsk. Et alors, un truc important à préciser aussi, c'est qu'elles font quand même preuve d'un grand courage. Parce que,
oui, parce que militer dans les pays de l'Est, en particulier en Ukraine, en Biélorussie, en
ouais.
Russie, les gens risquent pour leur vie physiquement.
Bah, carrément, ouais. Et puis là, effectivement, à Minsk, elles se sont retrouvées arrêtées par le KGB bélarusse. Elles ont été emmenées dans une forêt, torturées. Enfin, c'était vraiment... vraiment, c'est un courage qui mérite d'être salué. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, elles étaient à Davos, là, en janvier, où elles, avec un message célébrant la fête des gangsters à Davos. Et donc, c'est effectivement un groupe très médiatique que moi, je n'ai pas réussi à rencontrer quand j'étais à Kiev. Mais on en a discuté, évidemment, avec les militantes d'Offensive Féministe. Et alors, donc, je vous propose d'écouter une discussion entre Nadia et Tamara, qui sont deux militantes d'offensive féministe qui avaient en fait invité les fémènes à participer aux conférences qu'elles organisaient à l'occasion du 8 mars et les fémènes ne sont pas venues.
T'as remarqué à quel point elles ont changé au cours de cette année ? Leur dernière action à Davos. Elles sont de plus en plus à gauche, Tamara.
Bien sûr, parce qu'elles ne vont pas aller à Davos pour protester de la droite. Et elles peuvent être homophobes et xénophobes. Et aussi cette fille dans la manif, au Bélarus.
Ah ouais, un corps très queer.
Un corps queer, oui.
Avant qu'elles soient arrêtées, tout ça ?
Oui, ça veut dire qu'elles incluent des femmes qui n'ont pas toujours des physiques de top modèle.
Peut-être alors elles ont un très bon conseil politique. Mais ce qui compte, c'est que ce qu'elles font est très important. Elles bénéficient d'une attention médiatique telle et la présence de ce corps obèse, gros, queer. Enfin, on utilise nos termes, queer. C'est pas un corps d'homme, c'est un autre type de féminité. Il y a un corps nu, il y a des seins nus, c'est très important.
Tu sais, Nadia, j'ai aussi un problème avec ce corps queer dans la manifestation Bélarusse. Parce que cette fille ne participe pas à d'autres manifestations. Elles l'ont utilisée pour ridiculiser Alexander Loukachenko. Du coup, ce n'était pas une valorisation de ce type de corps. Le message n'était pas pour valoriser les femmes qui ont un corps similaire, pour dire que c'est bien et qu'elles peuvent aller nues et ne pas avoir honte. Elles en ont fait un corps honteux dans cette manifestation. Elle est Alexander Loukachenko, ce dictateur totalitaire hideux.
C'est comme ça que tu l'interprètes ?
C'est évident, elle est le méchant.
J'ai fait une interview avec elle. Je leur disais, je suis féministe, vous êtes un mouvement de femmes, on est des partenaires stratégiques. Mon plus gros problème, c'est qu'on les a invitées à cet événement. Et elles ont répondu qu'elles allaient à Istanbul.
Elles ne participent pas à des événements s'il n'y a pas de couverture médiatique. Pour moi, c'est problématique. Car si tu es féministe, tu t'intéresses aux questions qui concernent les femmes. Et l'épisode Bélarus a aussi contribué à me faire voir les choses différemment. Parce qu'elles ont vécu cette expérience horrible là-bas et on voulait faire quelque chose pour les soutenir. On les a appelées. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Peut-être que vous voulez aller manifester devant l'ambassade Bélarusse. On est prêtes à manifester avec vous par solidarité. Pas mal de personnes qui ne les soutenaient pas. Des groupes de gauche très différents. Après ce qui s'est passé, on dit « Oui, cette fois, on vient avec vous. On vous soutient. » Vous avez fait un super boulot. Vous avez manifesté contre ce dictateur, Loukachenko, et c'est très important. On partage ses valeurs. Et on veut faire une manif avec vous. Et elles ont tout refusé. Parce que ce qui les intéresse, ce ne sont pas les problèmes, c'est uniquement l'attention médiatique.
Non, faut pas être si dur avec elles. Je trouve que nous avons le devoir politiquement de travailler avec elles. On partage pas leurs méthodes, on est très critique, mais on partage le même terrain politique. C'est un combat politique. On est peut-être aussi le seul groupe politique qui les approuve, à notre façon. Tu vois, on est très critique de leurs actions, mais on dit « Ok, c'est important qu'elles le fassent. » Car l'opinion publique sur les fémènes est très violente et très agressive. Tu vois beaucoup de haine, des gens qui disent « Ces petites putes devraient être envoyées à la cuisine. » Les médias disent des choses horribles.
Ouais, en écoutant ce témoignage sur les fémènes, on sent une certaine ambivalence sur leurs actions.
Bah oui, c'est très ambivalent, parce qu'à la fois elles sont très courageuses, et puis en même temps, politiquement, c'est problématique. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir ça en tête, notamment parce que là est en train de se monter en France un groupe de fémènes ou de soutien aux fémènes. Enfin, c'est pas encore bien identifié si elles en font vraiment partie.
Quoi, le même type d'action, voilà, comme il y a les slots.
Exactement. Et alors, je crois qu'elle prévoit d'organiser une action le 31 mars en soutien aux Pussy Riots, ces activistes féministes punk qui ont été arrêtés à Moscou il y a quelques semaines, dont on parlera peut-être la semaine prochaine.
Oui, puisqu'on fait une émission sur la Russie la semaine prochaine.
Voilà, et puis je voulais vous proposer d'écouter un dernier extrait pour clore cette petite partie sur l'Ukraine et faire en même temps la transition avec la Russie, puisque c'est une discussion avec une militante russe donc qui était venue à Kiev exprès pour les événements prévus par l'association Offensive Féministe. Et donc on a eu l'occasion de discuter avec cette militante féministe russe autour des questions d'avortement et de familles homo en Russie notamment.
Oui, la droite en Russie est plus officielle et plus répressive. Ça n'est pas aussi drôle, si l'on peut dire, qu'en Ukraine. Ici, la situation n'est pas si dure.
Que disaient tes banderoles hier ?
Alors, l'une des banderoles disait, était contre la pauvreté, l'ignorance et la violence. C'est à propos de la loi qui a été promulguée en Russie et maintenant en Ukraine et qui restreint l'accès à l'avortement d'une certaine façon. Il ne s'agit pas d'interdire l'avortement, mais d'en restreindre l'accès. Ça s'appelle en Russie les semaines de silence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand tu es jeune et que tu veux faire un avortement, mais tu as peur de le dire à tes parents. Donc, tu vas dans un centre médical et tu demandes à faire un avortement. Et là, on te répond, tu dois y réfléchir pendant 2 semaines. Mais quand tu réfléchis pendant 2 semaines à est-ce que tu vas te faire avorter ou pas, eh bien, le temps passe. Et c'est plus difficile de te faire avorter. Ce n'est plus une simple opération médicale. Il faut sortir l'embryon. Ça peut avoir plus de conséquences sur la santé. Ma banderole était contre ça. Car ça nous mène aux avortements clandestins, comme à l'époque de Staline. Les avortements étaient interdits. Maintenant, ils ne sont pas interdits, mais c'est un problème.
Ta banderole était inspirée dans son esthétique de celle des processions de l'Église ?
Pas vraiment. C'était en hommage aux suffragettes des années 1910. Quand une femme prend une grande banderole qu'elle a faite elle-même et qu'il y est écrit quelque chose de très fort, comme contre l'ignorance et pour l'éducation féministe. Par exemple, ce n'est pas pour la presse, mais pour les autres femmes qui vont la voir protester.
Quand c'est une femme silente, qui,
quand c'est une femme silencieuse qui se tient debout et qui manifeste sans rien dire, mais tu vois qu'elle est sérieuse, c'est une position féministe très forte pour nous. Car on ne manifeste pas en souriant ici. Les conditions sont vraiment trop dures. Donc, je voulais porter cette affirmation qui va être comprise par des jeunes femmes. Par exemple, une jeune femme de 16 ans qui a besoin de se faire avorter. Et elles sont très nombreuses. Parce qu'on n'a pas vraiment de contraception, même chez les intellectuels. La contraception n'est pas vraiment connue. L'idée que la contraception, c'est mal, est très répandue. 2 enfants à 25 ans à Moscou, c'est très courant. Si tu fais partie d'un milieu intellectuel, tu as un mari qui est un intellectuel, et tu es la femme du grand intellectuel, et l'oppression est si forte que tu ne peux pas parler de féminisme du tout. Tu passes vraiment pour une tarée quand tu es féministe. Moi, je suis une tarée. Et en plus, je suis queer et
on adore les tarés comme toi.
Pourquoi les popes portent la barbe ?
Ah, bon, c'est la tradition. Et les jupes, tu sais. La barbe, oui. Et les jupes.
Pourquoi ils se déguisent en femmes, à ton avis ?
Je voulais faire un projet là-dessus. Arrêter l'influence des hommes en jupes. C'est une perversion. Parce qu'ils parlent beaucoup de perversion, de pervers, les gays, les lesbiennes, en Ukraine aussi. J'ai vu une banderole avec le mot lesbienne hier, c'était très intéressant.
Ça disait quoi?
Ouais, ça disait non au lesbianisme et à l'homosexualité. Mais c'est intéressant, car les femmes lesbiennes sont invisibles pour le gouvernement et pour l'Église. Mais la question des familles homo. Les familles homo en Russie sont des familles lesbiennes, pas des familles gays. Parce que les femmes ont beaucoup d'enfants. Et elles ne peuvent pas les donner à leur mari. Parce que c'est une honte pour une femme de laisser les enfants à son mari. Le raisonnement, c'est « je suis une femme, disons, soviétique, comme ma mère, comme ma grand-mère, et je dois faire le travail à l'usine et le travail à la maison. » Deux choses. Donc, quand je suis une lesbienne avec des enfants, je me mets en couple avec ma partenaire lesbienne, et nous avons 5 enfants. J'en ai 3 et elle en a 2, mettons. Et donc, on a une famille. Du coup, oui, la question de la famille homo, c'est juste une question de famille lesbienne, mais elles ne sont pas féministes, elles sont juste lesbiennes, parce qu'elles promeuvent le modèle de la famille nucléaire.
Alors, la semaine prochaine, nous continuerons à parler de Russie, puisqu'on recevra Tania Rakhmanova dans Les Oreilles Loin du Front pour la sortie de son bouquin Au cœur du pouvoir russe, enquête sur l'Empire Poutine, et c'est publié aux éditions La Découverte.